La 98.3 FM presenta El Club de Jazz. Carlos Pérez.
We'll be right back. ¿Qué tal, amigas y amigos de Club? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, Club de Jazz, que una semana más se asoma a las ondas de UFM Alterna, de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que transmite desde Cuernavaca, en México, 106.1 de la FM. Y, por supuesto, seguimos en la 98.3 FM, aquí en Pamplona, que es desde donde se origina este Club de Jazz, que también, por supuesto, continúa las 24 horas del día a través de la página web tomajazz.com. El especial saludo que semanalmente mantenemos con nuestros amigos mexicanos, el saludo, por supuesto, a Roberto Hernández. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con todo un histórico del jazz francés, y habrá que decir del jazz europeo, porque es una de las figuras más importantes del jazz del viejo continente. Hablamos de Henri Tessier, si quieres, de manera más clara, músico que iniciaba su trayectoria profesional a comienzos de los años 60, de manera autodidacta, aunque de la mano de Daniel Imer, otro histórico, pudo empezar a tocar en los grandes clubes de París, acompañando pues a Bud Powell, a Kenny Clarke, a Johnny Griffin o a Bill Coleman, y un músico que también desde el principio mostró un gran interés por la música de vanguardia. Ahí tuvo la oportunidad, en la segunda parte de la década de los 60, de tocar, por ejemplo, con el hombre de la trompeta de bolsillo, de la pocket trumpet, hablamos de Don Cherry, o incluso en esos años formó su primer quinteto de free jazz, aunque no se olvidó de acompañar a Lee Konitz, a Dexter Gordon, a Booker Ervin, a Art Farmer, etcétera, etcétera. Eso únicamente en lo que respecta a sus primeros años de carrera. Os podéis imaginar que la trayectoria profesional de Henri Tessier es realmente formidable. En los últimos años, trabajando fundamentalmente con su proyecto Azur, tanto en quinteto como en cuarteto. Aquí lo escuchábamos en la formación de quinteto, con Glenn Ferris en el trombón, Bojan Sulfikarpasic en el piano, Tony Gabeson en la batería y su hijo, Sebastián Tessier, en el saxo alto y clarinete. Formación que ha sido de cuarteto o quinteto, incluso trío, dependiendo los momentos, y en la actualidad también presentando un nuevo proyecto, que es con el que va a venir cerca de Pamplona, San Sebastián, al Festival de Jazz de San Sebastián el próximo mes de julio, presentando Estrada, una formación, un grupo compuesto en esta ocasión por el propio hijo de Tessier, Sebastián Tessier, en los diversos saxos y clarinetes, François Cugnelup en el saxo barítono, Georgi Kornasov en el trombón, Manu Kodjia en la guitarra y Christophe Marguet en la batería. Nuevo grupo de Henri Tessier que todavía no tiene disponible grabación, pero que próximamente así lo va a hacer. En estos días se encuentran preparándose nuevo trabajo, presentación en directo, como digo, en el próximo Festival de Jazz de San Sebastián. En esta ocasión, de nuevo, conversación y música, la palabra de Henri Tessier, explicando este nuevo proyecto y también otros diversos aspectos, pero por supuesto no puede faltar la música en este Club de Jazz. la música de Henri Tessier, en este caso proyecto a trío con el propio Sebastián Tessier y con Tony Ravesson, además de Henri Tessier, proyecto Remparts d'Argile con la composición de título Laila. Conversación, como te anticipaba, con Henri Tessier, hoy con la traducción de nuestro amigo madrileño Diego Sánchez Cascado.
El Club de Jazz, Carlos Pérez.
Nuevo proyecto de Henri Tessier con el cinematográfico nombre de Estrada. ¿Qué tiene de homenaje el nombre y qué tiene de cinematográfica la música?
Alors, le nom, il est pas, évidemment, il a des résonances cinématographiques parce que c'est le nom du film de Federico Fellini. Oui. Bien évidemment, ça, faut pas le nier. Mais c'est pas seulement ça pour moi. Un groupe qui s'appelle Strada, ça veut dire aussi que les musiciens, on est toujours dans l'histoire du nomadisme. On est toujours sur la route, on est toujours en déplacement, on est toujours un petit peu déraciné par rapport à l'endroit où on vit, et c'est un peu aussi en hommage à cette situation-là que j'ai appelé cet orchestre-là. Et puis, une dernière chose, et je vous laisse traduire, c'est que il y avait assez longtemps, j'avais l'idée de réunir un orchestre, une formation qui sonne un petit peu comme un orchestre de rue, comme une fanfare, qui est comme ça des accents, un peu de fanfare, et ça, pour moi, dans mon esprit, ça rejoint ce très beau mot de Strada.
Dice que sí, que efectivamente tiene una reminiscencia cinematográfica a la película de Fellini, pero que también se refiere a Estrada, carretera, pues porque para mencionar el carácter nómada de los músicos, que está siempre en la carretera. Y por último, la tercera razón, el tercer motivo, es que quería reunir un grupo, una formación que le recordase a las orquestas callejeras, las fanfarrias, y que es lo que quiere representar con este grupo.
Con lo cual, que nos explique un poquito las características de esa música.
Oh, ça, c'est toujours un petit peu difficile à définir. D'abord, ça tient beaucoup à la personnalité des musiciens, qui sont Sébastien Texier, qui joue des clarinettes et du saxophone alto, François Corneloup, qui joue du saxophone baryton, Georgi Kornazov, qui joue du trombone. Ça, c'est le côté un petit peu comme ça, fanfare, mm-hmm. Et banda, un peu. Et l'autre côté, c'est une section rythmique avec un guitariste qui s'appelle Manu Kodjia, oui. Et un batteur qui s'appelle Christophe Marguet. Et la musique, c'est une musique, je sais pas, c'est un peu dur à dire, c'est une musique un peu comme toujours ce que je cherche dans la musique, c'est une musique qui du voyage, c'est une musique du voyage et qui voyage aussi. Et évidemment, c'est une musique métissée. Et ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la musique de jazz. C'est une musique, je crois, qui participe de mes influences habituelles, c'est-à-dire la musique afro-américaine, le mélange entre le côté afro et le côté... c'est vraiment dur à dire, à expliquer. Mais c'est une musique qui peut être très violente. Mm-hmm. Et à la fois c'est une formation et l'expression des musiciens permet d'avoir des musiques très fortes, très violentes, très denses, très extraverties et puis très brutes, mm-hmm. et aussi de pouvoir écrire des arrangements assez sophistiqués, c'est peut-être pas le mot, mais avec ou dedans on peut avoir des sons
travaillés, quoi.
Très très délicats aussi, quoi. Mm-hmm. C'est entre violence et sensualité, si je puis dire.
Dice que lo que quiere representar con este grupo es un poco lo que siempre busca en sus grupos, que es representar la idea una música de viaje, una idea de una música de viaje y música que viaja. Entonces dice que menciona la importancia del mestizaje dentro del espíritu del jazz con música afroamericana, y dice como calificativos que por un lado puede ser una música muy violenta, densa, bruta, en el sentido de en bruto, sí. Que es, y a la vez con arreglos sofisticados, es decir, que él al final hablaba de una dicotomía entre violento y delicado.
Imagino que preguntarle a Anguitesie por aquello que busca en un músico sería también preguntarle por las características de los componentes de ese nuevo sexteto.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de qualité, quoi. Et parce que finalement, jouer ce genre de musique qui peut être aussi très écrite, très arrangée, puisqu'on est relativement nombreux, mais aussi ce sont des musiciens qui ont beaucoup de discipline et qui sont vraiment au service du groupe, et aussi de pouvoir jouer des musiques très très libres, complètement éclatées et complètement non figuratives. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et ça, ça demande énormément de qualité. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces musiciens-là pour créer ce nouveau groupe. Et puis c'est vrai aussi que c'est pas toujours facile de trouver des musiciens qui soient capables d'exprimer des choses dures et violentes. Et aussi dans l'instant d'après de pouvoir revenir dans la délicatesse et le son de douceur. Et aussi, il faut pouvoir swinguer très fort et puis aussi pouvoir être très très libre dans sa tête en même temps.
Dice que los músicos ha escogido porque tienen muchas cualidades y unas cualidades que se ajustan a una música que él considera difícil, con muy escrita, con muchos arreglos, es decir, que requiere mucha disciplina estar al servicio del grupo, pero a la vez con elementos muy muy libres, no figurativos, es como lo ha descrito, y que tienen que saber improvisar a partir de ahí. Entonces, no es fácil encontrar músicas que sepan ajustarse precisamente a esa mezcla que requiere esta música de, por un lado, muy violenta y muy delicada.
Et donc encore une chose,
oui.
C'est que donc ces musiciens là quand je dis que ça peut être elle est difficile à jouer. C'est aussi parce que ce qui est chouette, enfin ce qui est bien, c'est d'être en train de faire quelque chose de difficile, mais pas pour le public. Que le public, lui, n'ait pas cette notion de difficulté, qui soit simplement porté par la musique. Mm-hmm. Emporté, si possible, c'est encore mieux. Et puis aussi, une dernière chose sur les membres de cet orchestre. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique, en général, et dans le jazz, bien évidemment, en particulier, c'est que c'est une musique collective avant tout. Et que là, j'ai rencontré vraiment, je crois que j'ai un chouette groupe, parce que j'ai rencontré des gens qui ont cette notion du collectif. C'est-à-dire que nos séances de travail, en ce moment, on est en train de travailler et de répéter des nouvelles musiques, toutes nouvelles, qui vont être enregistrées la semaine prochaine, pour le prochain album. Et ces musiques-là, on est vraiment en train... Moi, je propose, j'ai écrit des choses, des thèmes, des propositions d'arrangement, mais on est en train de vraiment construire les musiques et le son de cet orchestre ensemble. Chacun participe, même modifie l'arrangement, ou même propose de jouer la mélodie différemment. Enfin, c'est formidable, parce que, eh bien, on a beaucoup de vie dans l'orchestre. L'orchestre, c'est un orchestre très vivant.
Dice que es una música difícil de tocar, pero que no quiere que resulte difícil, que el público tenga la sensación de que es difícil. Quiere que no se note. Dice que en general, en la música en general y en el jazz en particular, le interesa que la música sea una noción de colectivo, tenga una noción de colectivo. Entonces dice que, por ejemplo, con este grupo tiene la suerte de poder proponer pues unos arreglos o unas melodías, una base a partir de la que trabajar, y a partir de ahí trabajan, está abierto a las propuestas de los otros cinco músicos de modificar, y que tiene una importancia el trabajo sobre el sonido, que por cierto van a grabar material la semana que viene.
We'll be right back.
Strings Spirit, el título de este proyecto del contrabajista francés Henri Tessier, junto de nuevo a Glenn Ferris en el trombón, Sebastián Tessier en el saxo alto y clarinete alto, Bojan Sulfikarpasis en el piano y Tony Ravesson en la batería. Tonic Tony es el título de esta composición, como habéis comprobado, con la utilización de una orquesta de cuerdas. Continuamos en este Club de Jazz de hoy, emisión simultánea para UFM Alterna, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, México, 106.1 de la FM, y también para la 98.3 FM de Pamplona. Por supuesto, las 24 horas del día en tomayazz.com, y si quieres contactar directamente con nosotros, clubdejazz@tomayazz.com. Conversación con Henri Tessier, recuerdo la traducción de Diego Sánchez Cascado.
El Club de Jazz, Carlos Pérez.
Acudes este verano al Festival de Jazz de San Sebastián en el marco de un especial dedicado a contrabajistas. ¿Qué contrabajistas compondrían un especial en un festival organizado por Henri Tessier?
Ah, ça c'est une question intéressante. Il y en aurait beaucoup, hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bassistes très intéressants actuellement. Déjà en France, il y en a les deux principaux sont Bruno Chevillon. Je parle chez les jeunes bassistes parce que ouais, la liste est très longue, mais il y a Bruno Chevillon, il y a Claude Chamichian.
Oui.
Il y a aussi le bassiste qui joue beaucoup, beaucoup avec qui joue avec Aldo Romano, qui s'appelle ah mince son nom évidemment ça y est ça commence son nom m'échappe aussi, qui est un excellent contrebassiste peut-être un petit peu plus classique. Attendez, le son change parce que je vais chercher un disque pour regarder le nom de...
Ok.
Je connais que lui, Rémi Vignolo.
Rémi Vignolo, oui.
Rémi Vignolo, c'est vraiment très très bon bassiste. Et puis il y a les bassistes plus âgés, évidemment, qui sont. Et puis, ça ce serait pour la France.
Oui.
En Espagne, malheureusement, je connais pas les. Je connais très très peu les musiciens espagnols.
Mm-hmm.
Et aux États-Unis, il y aurait des gens comme. Charlie Haden, évidemment, qui est un monument, n'est-ce pas, qui est probablement le dernier grand monument de la contrebasse.
Mm-hmm.
Alors là, mon choix va pas être très original, hein, parce que aussi ce sont des musiciens, je pense à eux parce que ce sont aussi des musiciens qui ont un univers musical,
oui,
et qui composent. Et il y a évidemment Dave Holland, qui est un,
oui,
très très bon musicien, bien sûr. Et puis, parmi les nouveaux aux États-Unis, il y en a un qui joue très bien, et puis je vais arrêter parce que sinon, sinon il faudrait pas une journée, mais une semaine. C'est quelqu'un qui s'appelle Drew Gress.
Il joue, ouais,
il joue, ouais, très très bien.
Mm-hmm.
Il y a Scott Collet aussi qui joue très très bien. Enfin, vous savez, il y a, uh-huh, beaucoup. Il y a bien évidemment Steve Swallow, bien sûr.
Mm-hmm.
Dire, ouais, que pare que no nos llega el presupuesto, ¿eh?
Et puis en Italie, il y a deux ou trois très 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 bons musiciens. Enfin, vous savez, il y a...
Oui, on pourrait continuer.
On,
oui,
pourrait continuer tout l'après-midi.
Dice que entre los franceses, la joven jornada francesa, pues está Bruno Chevillon, Claude Chamichian,
sí,
Rémi Vignolo, que toca con Aldo Romano, y luego, claro, internacionales, pues... Bueno, dice que no conoce
españoles.
Músicos españoles, desconoce mucho el jazz español.
Heureusement.
Por desgracia, dice, pero que si no hay esta Charlie Haden, que es el último gran monumento del contrabajo,
uh-huh,
y luego le interesan bajistas que tienen un universo musical, que componen también, como Dave Holland, Drew Gress, Scott Collie, uh-huh, Steve Swallow, Mark Johnson.
La música de jazz se considera como una de las expresiones más libres del ser humano a través de la música. ¿No pierde su sentido esta afirmación cuando gran parte de la enseñanza de jazz se basa en patrones y clichés?
Ah, évidemment, mais ça c'est pas seulement que pour le jazz, hein.
Mm-hmm.
C'est vrai que c'est une musique qui peut être extrêmement libre, mais on peut être très très libre au théâtre aussi. On peut être très libre aussi en jouant de la musique classique, en jouant le même morceau tous les soirs. Je veux dire, c'est vrai que l'improvisation, ça permet d'inventer, mais si on utilise des codes pour l'improvisation qui sont fermés, alors évidemment on est, c'est pas une musique plus libre qu'une autre. Donc là, c'est vrai qu'avec le jazz, on peut être vraiment très très libre. Seulement, il faut en avoir les, comment dirais-je, faut avoir le suffisamment de discernement pour pouvoir être vraiment libre. Et les clichés, je pense que ça, oui, c'est vrai que il y a certaines écoles, par exemple, avant il n'y avait pas du tout d'école, c'était que la tradition orale, pratiquement, il n'y avait pas du tout de partition.
Ouais.
C'est vrai que certaines écoles et certains professeurs ont tendance à enseigner des choses conventionnelles. Mais ça, c'est pas seulement dans le jazz, c'est dans tous les enseignements.
Mm-hmm. Dice que el jazz, que eso no solo ocurre en el jazz puede ser una música muy libre, pero dice que el teatro puede ser muy libre, incluso se puede encontrar libertad dentro de la música clásica tocando la misma melodía, el mismo trozo todas las noches. Es una cuestión sobre todo de discernimiento de que debe tener el músico, y si los códigos son cerrados, pues entonces no hay libertad. Dice que está claro sobre los clichés. Antes prácticamente no había escuelas en el jazz, era todo se basaba en la tradición oral, y ahora al haber todas las academias, pues se basan en patrones y se caen en los clichés, pero eso no solo ocurre en el jazz, ocurre en buena parte de las enseñanzas.
Quizás sea en Europa donde el lenguaje de la improvisación encuentra un mayor campo para la experimentación y la vanguardia, pero ¿hablamos de jazz o hablamos de un lenguaje improvisado diferente?
Ah, alors là, ça c'est compliqué. Là. Parce que c'est vrai que la frontière du jazz, elle est pas toujours très bien définie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui, comment dirais-je, ne savent pas jouer du jazz tel qu'on l'entend, c'est-à-dire avec issus des standards, issus du jazz New Orleans, enfin, avec un passé historique. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'improviser des musiques très très intéressantes, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le jazz.
Dice que es complicado porque la frontera no está claramente definida. Está claro, si no te basas en los estándares o en una tradición, la tradición histórica del jazz, pues puedes hacer una música improvisada muy interesante, pero que realmente se aleja mucho de lo que se considera jazz.
Mais ce qui se passe, c'est que, comment dirais-je, ces musiciens qui font de la musique improvisée, comme on dit, on dit souvent ça, la musique improvisée européenne, se sont mis à faire cette musique-là quand ils ont entendu le free jazz.
Mm-hmm.
Donc quelque part, le jazz a une responsabilité quand même là-dedans. C'est un petit peu relié au jazz quand même.
Oui, peut-être leur tradition c'est le free jazz. Ils parlent du free jazz. Pero por otro lado, todos estos músicos que hacen música improvisada tal como se llama ahora, o libre improvisación, muchos han partido del free jazz. Entonces algo tiene que ver el jazz, alguna responsabilidad tiene el jazz.
Uh-huh.
Es decir, que el free, en este caso, el free jazz sería un poco su tradición.
Pour essayer d'être complet, comment dirais-je, c'est vrai qu'il existe des musiciens qui jouent de la musique improvisée et qui ne sont pas capables, ou qui ne veulent pas, je ne sais pas, ou qui ne ressentent pas le jazz, je dirais, figuratif, avec un tempo régulier, un canevas harmonique, etc., un peu, qui sont pas forcément capables de jouer le blues, par exemple, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Mais ça n'empêche que ce sont quand même des très bons musiciens qui font quelque chose de différent. Mais pour mon goût personnel, je pense que un vrai musicien de jazz est capable de jouer et d'être authentique en évoquant toute l'histoire de cette musique. Et c'est pour ça que ça devient... C'est pour ça que je suis, par exemple, difficile quand je choisis des musiciens, parce que j'aime entendre toutes ces époques-là, moi, dans la musique. Donc c'est dur, il faut maîtriser beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, l'exemple, vraiment, il y en a beaucoup, hein, mais je crois que l'un des tout plus grands musiciens qu'il y a actuellement aujourd'hui, c'est quelqu'un comme Joe Lovano, par exemple,
ouais,
qui est absolument magnifique dans toutes les expressions
qui participent de la musique de jazz. Puede haber músicos que pueden ser muy buenos y hacer cosas muy válidas, pero que a lo mejor si no son capaces de tocar blues o no son capaces de tocar jazz figurativo, lo que llama jazz figurativo, es decir, con un tempo, con acordes, una serie de acordes, se aleja de, no se les puede considerar músicos de jazz. Él, desde luego, por cuestión de gusto, prefiere una música que está enraizada en el jazz, y dice que a la hora de elegir músicos exige de ellos, o pide de ellos, que sepan expresar toda la historia de esta música, lo que es bastante difícil, pero dice que hay algunos ejemplos, bastantes ejemplos, y quizá el parangón sea Joe Lovano, que es un magnífico en todos los estilos de jazz.
Dicho lo cual, ¿qué elementos clave nos tenemos que encontrar para poder definir una música como jazz?
Ben, ça dépend des ça dépend des moments. Moi j'aime aussi bien moi je dis toujours la musique le jazz figuratif. J'ai besoin du rythme régulier, j'ai besoin du blues, j'ai besoin de ce qu'on appelle le swing, c'est-à-dire la pulsation régulière qui quelque part est capable de faire danser les gens. J'aime la danse. J'aime la danse qu'il y a dans cette musique de jazz qui en grande partie nous vient des racines africaines, mais j'aime aussi la musique complètement non figurative, c'est-à-dire totalement free et totalement sans tempo, sans mélodie, sans harmonie, et qui participe plus de comment dirais-je, de la sensation immédiate de ce que c'est. Pour ça j'ai pas de préjugés, quoi. J'aime tout, mais j'ai besoin de tout faire. J'ai besoin de jouer du free jazz, mais j'ai aussi besoin de jouer le blues pour être simple. Donc, quelquefois, quand j'entends des musiciens qui ne sont capables que de jouer le jazz figuratif et d'autres qui sont capables que de jouer de la musique improvisée, je trouve ça un peu dommage parce que il y a quelque chose qui me manque. Mm-hmm. Moi, j'aime tout, vraiment, franchement. Je peux faire un concert entier de free jazz, si... mais c'est... pour moi, ça participe de l'équilibre entre les deux, entre le figuratif et le non figuratif.
Dice que no tiene prejuicios, que le gusta todo, y le gusta tanto lo que él llama el jazz figurativo, es decir, con un ritmo regular basado en el blues, con swing, es decir, entendido como una pulsación regular, que invita a bailar. Dice que le gusta el baile y que esta música tiene que hacer bailar, como debido viene de sus raíces africanas, pero que también, por otro lado, le gusta la música no figurativa, totalmente free, sin tempo, sin melodía ni armonías, algo que ofrece sensaciones inmediatas. No tiene prejuicios, dice que, por otro lado, que le gusta tocar estos dos tipos de música y que considera una pena que un músico solo sepa tocar uno de estos dos estilos. Uh-huh. Que lo importante es llegar a lograr un equilibrio. Thank you.
recta final del Club de Jazz de hoy. Escuchábamos ahora la Sur Quartet con Glenn Ferris trombón, Tony Gabeson batería, Bojan Sulfikar Pasić en el piano, pero con la colaboración en este trabajo de Michel Portal en el bandoneón y de Luis Clavi en clarinetes, saxo soprano, etcétera, etcétera. Año 1993. Continuamos con Agite Silla en esta recta final.
El Club de Jazz. Carlos Pérez.
Durante este último año en España se ha gestado un movimiento, con plataforma incluida, para la defensa de los intereses de los músicos nacionales. Una de las referencias más aludidas, la francesa. ¿También viven los músicos en Francia?
Bah, oui, enfin, j'irai pas jusque-là, quand même.
Non, c'est ironique, un peu.
J'irai pas jusque-là, parce que, simplement, si on prend... Évidemment, c'est vrai que depuis longtemps, les musiciens français... Disons que, en ce qui me concerne, ça m'a préoccupé. J'étais très jeune, avec des gens comme Daniel Humer, avec François Janot, enfin avec beaucoup d'autres personnes. Nous nous sommes préoccupés de défendre l'image des musiciens français, notamment en nous battant avec les organisateurs de festivals pour que les noms des musiciens français et européens, mais les noms de tous les musiciens, soient... identique sur l'affiche. Mm-hmm. Pas seulement les Américains en gros et puis les Européens en petit. Parce que c'était symbolique de montrer que les musiciens européens et français en particulier, si on met leur nom plus petit, ça veut dire qu'ils sont moins bons, quoi. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Et ça, c'est des petites choses, des petits détails symboliques à l'esprit. Bon, autrement, on s'est beaucoup plus battu parce qu'on s'est aussi engueulé, on a aussi fait des grèves, on continue en ce moment là avec l'histoire des intermittents, ouais, du spectacle en ce moment en France. Les musiciens sont à l'intérieur de ce mouvement là très sérieusement. Mm-hmm. Bon, alors évidemment, peut-être que il semblerait que la France comme ça, enfin les musiciens français comme ça, cette sorte d'image où c'est bien d'être musicien en France, mais c'est pas si bien que ça, et surtout en ce moment. Et surtout que, par exemple, il y a deux, trois bonnes écoles, et notamment le Conservatoire de Paris, où il y a des jeunes musiciens qui vont étudier, et il y a de ces écoles des très bons musiciens qui sortent, ouais, et qui n'ont pas de travail. Mmh. Par exemple, lorsque moi j'ai commencé dans les années 60 à jouer, à Paris, il y avait 5 clubs célèbres. Mmh. Maintenant, à Paris... doit y avoir 50 fois plus de musiciens et il y a 3 clubs célèbres. Bon, alors évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de festivals et que, quelque part, on s'est toujours, toujours, toujours battu pour ne pas suroublier et on continue, quoi.
La situación en Francia, bueno, que es una lucha que viene de hace mucho tiempo, él y hace todos los nombres de... Daniel Humer y François Genot, dice que se han preocupado mucho por defender la imagen de los músicos franceses ante, sobre todo, los organizadores. Por ejemplo, una cosa que para ellos es importante, aunque pueda parecer simbólica, era que los nombres de los músicos franceses y europeos fuesen del mismo tamaño, apareciesen con el mismo tamaño que los músicos americanos en los carteles. Pero aparte de eso, también han hecho huelgas, ahora están con el asunto de lo que llaman los intermitentes del espectáculo. Es decir, que es una lucha que continúa y que la situación no es para nada boyante en Francia. Dice que cuando él empezó había 5 clubes importantes en París, ahora solo hay 3, pero hay a lo mejor 50 veces más músicos y están saliendo músicos fantásticos de varias escuelas francesas que están ahora mismo sin trabajo.
Uh-huh. A lo que se hace referencia fundamentalmente en cuanto a Francia desde la plataforma, desde nuestro jazz, es al porcentaje presencia de 50% de músicos franceses en festivales.
Ah, mais y a pas de quota.
Dice que no hay quota en Francia.
Quota, no, y a pas de quota. Ça dépend des organisateurs de festivals, mais comment dirais-je, nous, il y a aussi quelques années, nous avons créé un mouvement, un collectif de musiciens qui s'appelle l'Union des musiciens de jazz. Oui. Et avec cette union qui a maintenant, je pense, c'est pas loin d'une dizaine d'années qu'elle existe,
on a convoqué les organisateurs de festivals en leur disant que c'était pas possible qu'ils ignorent la créativité des musiciens français et européens, pas seulement français. Mmh. Et donc il y a eu des discussions vraiment mais des réunions très très mouvementées, et les directeurs de festivals sont venus à ces réunions, et on a parlé les uns en face des autres, et c'était et ça a déclenché des mouvements. Mais il faut toujours continuer, parce que ça arrive encore qu'il y ait des festivals où il n'y ait pas beaucoup de musiciens français. Et il faut toujours continuer ce combat-là, quoi. C'est jamais gagné. Jamais, jamais.
Entonces que no existe una cuota de ningún tipo en Francia. Lo que sí, hace 10 años crearon la Unión de Músicos de Jazz, y hubo un momento que se reunieron con los organizadores de festivales para exigir la presencia de músicos franceses, pero también europeos. Uh-huh. Y que las reuniones pues fueron bastante bastante duras, bastante movidas, que consiguieron, al parecer consiguieron algunos buenos resultados, pero que hay que seguir batallando. Uh-huh. Que es una lucha que continúa.
En France, il y a des lois sur le travail qui concerne les pays qui ne sont pas dans la communauté européenne. Et par exemple, avec les musiciens américains, il y a eu un festival qui s'est organisé à Paris où il y avait pratiquement que des musiciens américains qui jouaient. Et seulement, les lois du travail, c'est pour les mêmes pour tous les travailleurs. Et on est intervenu, on a dit, mais attendez, là, il y a un truc qui va pas du tout.
Parce qu'ils étaient payés au noir ou...
Non. On a dit, il y a pas assez de musiciens français. Mm-hmm. Et les gens nous ont répondu, oui, mais nous, les employés, on a le quota d'employés français, mais seulement, ils comptaient là-dedans les serveurs de bière, les chauffeurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Uh-huh. Et là, on a pu rien faire parce que sur le plan de la loi, c'était légal, ils étaient dans la légalité.
Mm-hmm. que hay, lo que sí, fuera de los carteles, hay una ley francesa que determina una cuota de participación de trabajadores pertenecientes a la Unión Europea. Mm-hmm. Pero que claro, que hay entrada de todo, entran los camareros y los que hacen iluminación, etcétera. Entonces, hace poco en París hubo un festival en el que no había músicos franceses. Mm-hmm. Y fueron a protestar los músicos de allí, pero no pudieron conseguir nada porque la ley no,
claro,
se refería a los trabajadores en general.
Las palabras de Henri Tessier, del contrabajista francés, en la traducción de Diego Sánchez Cascado, con quien tenemos que poner ya punto y final a este programa de hoy de Club de Jazz, y el agradecimiento a los oyentes de UFM Alterna, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que transmite desde Cuernavaca, en México, en el 106.1 de la FM, a los que espero el próximo miércoles, será a las 8 de la tarde. Lo dejamos por hoy en el Club de Jazz. Si quieres más, tomajazz.com y nuestro correo electrónico clubdejazz@tomajazz.com. Hasta la próxima ocasión, un saludo de Carlos Pérez Cruz.